Autriche, qui engage la discussion.
Moi j'ai une,
Katia.
Une question toute petite, mais qui engage un petit problème. Enfin, c'est, la question, ce serait tout simplement déjà, enfin, un peu précise, puis après je vais plus général, mais comment tu verrais la... est-ce qu'il y a une contradiction dans le fait que finalement Adorno se réclame d'une conception du pouvoir comme celle de Neumann dans les années 60? Donc d'après ta citation, c'est parce qu'il y a une conception du pouvoir qui est moins unitaire, moins unilatérale, moins, voilà, plus différenciée, qui produit une intégration de surface. Et le fait que dans le texte que tu as étudié, donc les réflexions, la référence manifestement, c'est quand même pas du tout Neumann, et c'est vraiment Pollock, et il fait montre aussi d'une conception du pouvoir qui est justement à contraire à celle qui reproche en fait qui est contraire, enfin, qui est celle, enfin, il fait montre en fait d'une conception qui est relativement unitaire, unilatérale, assez massive et peu différenciée.
En 42 du pouvoir.
Oui, en 42. Ouais. Donc comment t'expliques le retour qui viendrait revaloriser Neumann?
Et moi, j'ai lu les réflexions sur la théorie de classe moins colloquiale que Pollock, peut-être. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment ce passage de la lutte au combat. De dire, bon voilà, on arrête de considérer la société comme un lieu politique, il y a des lieux politiques, on revient justement à une structure de combat. Et moi, ça me semblait plus proche de la conception de Neumann, c'est tout. Après, il ne cite pas Neumann, oui. Ça c'est clair. Mais c'est vrai que l'État apparaît encore. Non, il n'apparaît pas de fait. La vraie durée de prise dans les réflexions sur la théorie de classe, mais au passage, ce n'est pas une vraie institution. Donc il ne cite pas l'État, ben, il l'appelle pas, ce n'est pas un moyen d'analyse du social à ce moment-là. Et il m'a semblé seulement que cette transposition de la lutte vers le combat est plus proche d'une conception de politique neumannienne qu'une conception colloquienne. Mais,
Je suis pas sûre de
moi, ça ne m'étonne pas de passer de la réflexion sur la théorie de classe à une revendication après de Neumann.
Alors, je reformule juste autrement, en deux secondes. Est-ce que tu insistes beaucoup sur le fait qu'en fait, c'est peut-être là où je pense qu'on doit être notre désaccord, c'est que l'État serait dévoré par la société civile bourgeoise. Ce serait ça, en fait, la dimension neumannienne. Et alors que moi, j'ai l'impression que dans énormément de réflexions de Horkheimer, mais aussi d'Adorno et donc de ceux qui s'opposent à Neumann, à un moment, même si ensuite ils peuvent l'utiliser, l'idée c'est que la société civile bourgeoise, elle est complètement court-circuitée, qu'elle est mise hors circuit, et qu'elle est tellement mise à mal parce qu'il n'y a plus de fonctionnement normal de la concurrence entre individus privés, que finalement au bout d'un moment elle devient valorisée et défendue. Et que comme ils mettent à jour un autre type de domination qui n'est pas celui qui est pas dans la continuité de l'extension d'une domination civile bourgeoise à l'État, c'est un changement de paradigme quasiment. Du coup, ils en viennent finalement à valoriser les possibilités offertes par une société civile bourgeoise qui pourrait fournir une garantie de la liberté. Et donc je vois plus le rapport avec ce que tu as dit sur Habermas à la fin. Enfin, moi je vois plus de continuité finalement avec la position habermasienne finale, qui va rechercher de nouveau dans la société civile bourgeoise cette garantie de la liberté.
Oui, c'est vrai que j'étais beaucoup trop rapide sur ce point. Ce que je veux dire par logique, la société civile bourgeoise, c'est pour ça que je l'appelle, j'aurais dû peut-être être un peu plus radical, appeler ce mot société bourgeoise, sans civile, tout simplement. La société régie par une logique économique et pas du tout par une logique libéral, politique qui va avec. En ce moment, ça c'est pas vraiment clair.
Elle est désamorcée et finalement ils ont bien presque à trouver que le marché c'était irrationnel, mais c'était moins irrationnel que ce qui vient après.
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi qu'en effet la société de concurrence, pour eux, c'est un peu l'état d'idéal. Ils ont bien à dire.
Il y a un moment où ça devient une sorte de modèle presque positif.
Oui. Sauf que moi j'ai oublié. En venir, et c'est pour ça que je l'ai dit, tu as tout à fait raison, à ce niveau-là, je ne suis pas assez différencié. En disant que l'État est dévoré par la société, par la logique de la société civile bourgeoise, donc je veux dire, le civil, j'insiste sur les bourgeoises, et en reliant ça au texte, alors non, sur justement la lutte des classes, et donc un texte qui essaie de montrer que la logique de la société bourgeoise est une logique de combat entre individus privés, donc une logique de, qui après peut devenir une logique de concurrence régulée par le droit, et donc aussi par les droits protecteurs, hein, les objectifs, tout cela est vrai, mais si on supprime tout cela, on reste finalement à un état de combat pur entre des intérêts privés, et que l'État est dévoré par cette logique-là en devenant un acteur privé lui-même. Il n'est plus au-dessus de la mêlée, quoi.
On peut dire dévoré ou complètement fortifié. Enfin, si le capitalisme d'État, ça peut être l'idée que ben, l'État justement s'empare de cette logique, la met en œuvre comme... Oui, mais il n'y a pas d'égalité entre les concurrents. Et, enfin, il montre bien, ça c'est Kirchheimer aussi, mais il n'y a plus aucune égalité entre les concurrents. Il y a des groupes et puis des individus isolés qui sont rien. Enfin,
oui, mais ce que je veux dire, pas dévoré par la logique de la société civile bourgeoise, c'est pas du tout entrer dans un système de concurrence avec les opérateurs, c'est-à-dire abandonner la logique d'État, qui fut la logique d'État selon quelqu'un comme Hegel, à savoir une logique d'universalité, d'universalisme, de rationalité. Et donc, du coup, cette logique-là, eux, ils y croient absolument pas. L'État ne se réfère pas, n'est plus du tout une instance d'universalité, de synthèse rationnelle, du conflit, je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui s'est approprié lui-même, il n'a rien fait, mais qui est entré dans une logique de l'intérêt particulier, c'est tout ce que je voulais dire par ce fait dévoré.
Oui, mais je ne sais pas si j'ai fait ça, c'est ça peut-être mon désaccord, mais après j'arrête. Une logique de l'intérêt particulier. C'est une logique on ne peut même plus parler de particularité, c'est des groupes, c'est des associations. C'est des trusts, enfin, ils évoquent justement le fait qu'on n'a pas de rapport entre les particuliers.
Ouais, mais tu n'appelles pas la logique d'un groupe, d'un trust, une logique particulière.
Oui, mais pas aussi.
Bah, c'est un être particulier pour moi, par opposition à quelque chose.
Oui, mais justement, qui ne peut pas être. D'accord, non, je pense que ça doit être que j'ai mal interprété.
Non, c'est tout
particulier qui s'oppose donc à aucun autre particulier. Il n'y a
non,
pas de mise en concurrence des particuliers.
Non, pas du tout, mais qui ne vise absolument pas l'universel, surtout. Qui vise que son propre intérêt particulier, alors que l'État est lié à une visée universelle ou plus totale que un groupement, ou même la classe ouvrière, c'est pour ça que j'insiste tellement sur cette idée de la classe ouvrière. Voilà, peut-être c'était là, en effet, un moment, un vrai lieu politique, sauf que, pas vraiment, ça n'a pas fini, mais la classe ouvrière, quand même, pour ce qui vise, vraiment universel, et pas l'intérêt particulier, c'est juste ce que je veux dire, c'est particulier, ça va pas plus loin.
Martine.
Oui, moi, c'était à propos de Neumann. Il me semble quand même que ce qui me paraît très important chez Neumann, dans son analyse de Behemoth, c'est l'attention qu'il donne à la dimension du droit. C'est-à-dire que quand même ce qui fait apparaître dans le national-socialisme, c'est cette situation d'une apparence de droit qui n'en est pas un vrai. Et donc il donne, et ça me paraît très spécifique par rapport aux autres certainement, une véritable consistance à la régulation juridique. Qui a été, si je me souviens bien, d'après lui, déjà mis à mal par le capitalisme monopoliste, mais justement, le national-socialisme fait sauter ce verrou-là en établissant ce qu'il appelle un pseudo-droit. Et ce qui fait que ça veut dire qu'il n'y a pas non plus chez Neumann, du coup, de continuité totale entre le monopoliste. Le système monopoliste capitaliste avec un État au sens classique du terme, disons, et puis ce qu'abolit le national-socialisme. C'est-à-dire que je crois que chez Neumann, il y a quand même, je crois, l'idée d'une discontinuité entre le totalitarisme et la société capitaliste ordinaire.
Je pense que pour Neumann, vous avez tout à fait raison. Moi, j'aime bien penser ça dans un genre de degré. Pourquoi, et je vous explique pourquoi, parce que j'ai l'impression que moi, Adorno, il essaye, j'ai également eu l'impression chez les autres auteurs, de toute façon je ne connais pas aussi bien, que ce qu'ils essayent quand même de penser, c'est la possibilité d'une répétition de l'histoire. Et donc, d'une répétition de l'histoire, l'avenir, le nouvel avènement du fascisme. Donc, du coup, à un certain niveau, une vraie rupture entre une logique concurrentielle libérale qui passerait à une logique monopolistique, qui passerait après, et chaque fois par des ruptures, à une logique fasciste. Je crois pour eux, ça leur pose un problème presque éthique de le penser comme ça. Chez Neumann, donc c'est pour ça que j'essaie en effet de rester dans ce schéma d'explication.
De ça fait penser aussi chez Neumann, ce qui est aussi très spécifique, c'est par exemple son analyse du parti nazi. La manière dont il analyse la façon dont, à la différence du fascisme italien, où le parti est intégré dans l'État, le parti fasciste est intégré dans l'État, et donc il fait la différence entre l'État total à la Mussolini et le national-socialisme. Parce que dans le national-socialisme, le parti vient, dominer, enfin, pas dominer, mais en tout cas tire les ficelles des institutions d'État, et ça c'est une logique qui n'est pas compréhensible à partir du capitalisme. C'est une nouvelle forme de domination.
Non, c'est pour ça que vous avez probablement tout à fait raison pour Neumann, qui voit une spécificité aussi du système national-socialiste, distingue ça très clairement d'autres systèmes fascistes. Il y a probablement là vraiment une rupture. Ça c'est parfaitement clair. Il est vrai que je pense que quelqu'un comme Adorno, je ne pense pas, ça je le sais, par exemple des réflexions sur le droit à ce niveau précis, se trouve curieusement pas chez lui. Donc moi je pense que ce qu'il peut prendre chez Neumann, ce qui m'intéressait dans l'histoire, qu'est-ce qu'il peut lui prendre. Et c'est vraiment cette histoire d'une sorte d'horizontalité presque totale des rapports humains. Et d'essayer de penser cela avec le concept de domination, ce qu'ils font finalement dans la dialectique de raison. C'est ça que je crois qu'il va prendre à Neumann. Après, tout ce que Neumann fait au niveau de l'analyse concrète du national-socialisme, je pense entre nous, à cette époque-là, si on écrit une histoire de l'humanité, comment elle retombe dans la barbarie, si vous regardez aussi le peu de compression historique de la dialectique de la raison, ils ne font pas dans la dentelle, je pense, à ce niveau-là. Ils prennent cette idée-là et ils la transposent et essaient peut-être un peu de voir si ça fonctionne ou si on peut prendre ça comme paradigme d'interprétation des rapports sociaux de l'humanité en général. Mais je pense pour Neumann, oui, ça c'est tout à fait vrai. Lui, il ne le fait pas comme ça. Pour lui, ce n'est pas un schéma pseudo-anthropologique de l'humanité. C'est une situation historique concrète.
Mais là-dessus, bien sûr, il dit quelque chose toujours d'assez juste. Il dit que c'est un de ceux que Neumann, c'est un de ceux dont on dit qu'il a cherché, enfin, qu'il est le plus marxiste traditionnel, qu'il a finalement appliqué une théorie marxiste. Et pourtant, c'est celui qui amène une catégorie nouvelle avec cette idée de Behemoth, l'idée de l'endroit, etc. Alors qu'il y a une volonté plus affichée de la part d'Adorno quand même, malgré cette idée de répétition. De la part de ceux qui se revendiquent du primat du politique de Pollock, il y a une volonté quand même plus affichée de changer de catégorie, de penser une domination nouvelle. Et pourtant, ils n'ont pas inventé une catégorie, enfin, ils ne se réfèrent pas à des catégories inédites comme le Behemoth, pas aussi forte et pas aussi. Je cherchais l'équivalent, alors peut-être c'est dans cette préhistoire qu'il faut chercher. Quel type de catégorie essaye d'appréhender la nouveauté de la domination chez Adorno?
Je pense que le concept préhistoire est certainement un de ces concepts, un de ces lieux où on essaie de penser ça autrement. Mais je pense que c'est uniquement visible de manière négative. La citation elle est peut-être passée trop rapidement, mais lui il dit là où Pollock dit, c'est que l'État prend une décision politique en calmant la faim. En s'occupant des chômeurs, ce serait des décisions politiques. Adorno, il est extrêmement prudent, il est uniquement extra-économique. C'est pas encore politique. Donc du coup, je pense que lui, il essaie de penser ça, sauf qu'il n'a pas encore vraiment un concept pour le penser, au moins pas encore entre deux. Après, plus tard, Il y a une conceptualité qui revient toujours à ce moment-là, c'est la conceptualité de l'administration, la société comme société administrée, donc ça c'est vrai, mais ce n'est pas non plus une décision politique, c'est une décision d'administrateur ou de gestionnaire. Donc peut-être c'est ça, en effet, le paradigme nouveau de la domination, qui n'est pas si nouveau que ça, le fait qu'il essaie de penser justement de penser la, au rapport du pouvoir, pas que c'est pas si dans la boucle, on fait beaucoup d'argent avec après. Vous pensez le rapport du pouvoir à la population comme rapport à l'administration. Ce n'est pas non plus si peu original que ça non plus si on cherche là un concept nouveau.
Non mais ça, ça ne dénote aucune différence avec la nouvelle forme de domination.
Pourquoi ? Ce n'est pas un rapport d'exploitation, ce n'est pas un rapport politique de domination. C'est un rapport de gestion. On gère les populations. Pour c'est une forme de domination.
Oui, non, je pensais par rapport à la rupture avec Weber, là, et pas flamande.
Ouais, c'est vrai, il faut la démocratie.
Peut-être aussi, cette idée de préhistoire, et finalement, de la sortie de la préhistoire, c'est la rentrée dans la politique, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et que, cette préhistoire est foncièrement non politique, pas politique, etc. Et en t'écoutant, bon, il y a évidemment des résonances hegéliennes frappantes dans justement le rapport maîtrise et servitude. Finalement, cette préhistoire, c'est une situation quasiment parfaite, en tout cas du point de vue de la domination, où le désir d'asservir correspond parfaitement à un désir d'être asservi. Donc, c'est là où manque la lutte, où la question des intérêts particuliers, de leur particularité subjective, et qu'on s'évanouit complètement. C'est qu'on a même, c'est même plus un état de nature où les individus pourraient se lutter les uns contre les autres en fonction de leurs intérêts propres, mais c'est une situation complètement apolitique où il y a le désir de dominer qui correspond exactement au désir d'être dominé.
Dans la
préhistoire, oui. Et alors, si je continue un peu mon raisonnement en disant, mais finalement, tu reprends le critère machiavélien du politique comme la tension entre les désirs de dominer des grands et le désir de la paix, de ne pas être dominé, ça, c'est ça, on rentre dans le politique.
Ce serait un autre concept d'agir politique, je pense, de lutte politique. Je pense que cette lutte-là, alors nous, qui s'occupe de ce problème de lutte, il serait trop narcissique pour considérer que ça, déjà, c'est une lutte politique. Et il dit très clairement dans ce texte, pour qu'il y ait une lutte politique, il faut constitutionnellement des opprimés en classe. Et le problème, pourquoi il n'y a plus de politique, parce qu'il n'y a plus de constitution des êtres opprimés en classe. C'est ça la raison pour laquelle il n'y a pas de politique. Et après, la préhistoire, c'est... Je ne suis pas sûre s'il faut une sorte de quiétude dans le social pour qu'il y ait de respect. S'il faut absolument qu'il n'y ait pas de lutte pour le combat, pour que les correspondances entre les désirs dominés et les désirs de l'homme. Non, je ne crois pas, parce que je pense à Bernou, à ce moment-là, il dirait, non, la préhistoire et tout cela, en fond, l'agir social. Même les luttes, même tout le côté agressif de la lutte qui fait advenir quelque chose de pseudo-nouveau, où on confond cela avec un vrai changement ou avec un vrai agir. De dire, non, c'est pas l'agir, c'est toujours la même chose. C'est pas les uns avec les autres, on répète une logique de domination. Et c'est ça la préhistoire. La préhistoire, c'est quelque chose où on ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Et que ce soit sous forme de lutte, d'antagonisme ou de paix. Ça, c'est pas son problème, je pense. Pas dans ce texte-là.
Donc le critère machiavélien serait encore de la préhistoire.
Oui, tout à fait. Non, ça serait une logique de combat pour lui, je pense.
Et ça rappelle aussi le passage justement de Benjamin dans Critique de la violence, où finalement il montre le caractère un peu. Je sais plus quand il parle justement des luttes ouvrières, en tout cas réformistes. Ouvrier pour qu'il y ait certains droits de l'État, conforter la formation, de lutter sur la violence, etc. Et il n'y avait pas de problème d'une espèce de... aussi dans une espèce de préhistoire, son nom, son salaire du terme.
Alors on d'ailleurs reprend, je pense, cet exemple bénéfique justement de la réflexion sur la violence.
Oui, c'est ça.
On ne sort pas. Le problème, c'est vraiment, on ne sort pas et on se demande comment on peut en sortir.
Mais ce qui est bizarre, c'est que si on sort, qu'est-ce que ça donne comme critère du politique, justement? Une fois qu'on sort de la lutte, une fois qu'on sort de Machiavel, on a quoi?
Et est-ce que le prolétariat peut se constituer en classe, enfin, si on reprend ton critère?
Oui.
Non, je pense que... Bah, si on sort, je sais que c'est ce passage, en effet, je pense qu'on en sort difficilement. Et bon, chez Adorno, uniquement par les micro-pratiques, d'une certaine manière. Enfin, les mots qu'il emploie pour ça, c'est, et justement dans ce texte, hein, c'est pour ça que c'est assez intéressant, les mots qu'il emploie sont les rapports de solidarité, de tendresse, d'égard ou d'attention. Et ça, c'est les rapports entre les êtres humains, qui sort la logique de la domination. Et de fait, je pense que cette solidarité, c'est pas inintéressant, parce que ça renvoie justement à une logique... À une logique ouvrière à un moment donné. Et après, ça c'est des moments où en effet il dit que là, voilà, on échappe et toujours de manière parfaitement comparable à la logique de domination. Ça peut arriver quand ça solidaire avec quelqu'un, à un moment donné, ça ne nous garantit pas de sortir de la préhistoire. Et après, pour ce qui concerne l'utopie sociale d'ailleurs, ça je pense que c'est même une citation tellement rebattue, je vais la citer, je vais la prendre encore une fois. La société dans laquelle les hommes pourraient être différents sans peur. Je pense que ça, c'est l'utopie sociale. Après, il est parfaitement vrai que entre l'expérience d'une situation de solidarité, de tendresse, d'égard, d'une situation non dominée par la logique de domination, et l'utopie sociale, il y a un chemin à faire, et il est vrai qu'Adorno ne lit pas comment le faire. À ce niveau-là, ça c'est vraiment compliqué. Mais avec toujours le... Il n'est pas le seul qui a ce problème, je dirais. Le problème se pose pour pas mal de mouvements révolutionnaires aussi, de ne pas répéter justement dans l'action politique la même logique contre laquelle on lutte. Et il y a pourtant la violence, l'oppression, toutes ces choses-là. En effet, je pense qu'il prend ça uniquement... Enfin, il prend même pas, il n'en parle pas. Mais il pose d'un côté l'introduction de la logique de domination, de l'autre côté une utopie sociale. Et entre les deux, il y aurait l'action politique.